podcasts de Radio Vatican.
Après 30 ans d'absence, le Maroc fait son grand retour au sein de l'Union africaine. C'est ce qui a été décidé lors d'un sommet de 2 jours à Addis Abeba en Éthiopie. Mais le conflit autour du Sahara occidental qui l'avait conduit à claquer la porte de l'UA n'est toujours pas réglé. L'arrivée du riche royaume marocain est une aubaine pour l'Union africaine en quête d'indépendance financière. Car jusqu'à présent, l'organisation est financée à 70% par des donateurs étrangers comme l'Union européenne, l'ONU ou la Chine. Mais le président rwandais, Paul Kagame, a proposé un projet de réforme, notamment sur les modalités d'une taxe de 0,2% des importations pour financer l'UA. Cependant, il reste de nombreux blocages, explique Philippe Hugon. Il est le directeur de recherche en charge de l'Afrique à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est interrogé par Samuel Blény.
L'Union africaine a copié globalement un modèle d'intégration qui se rapproche de l'Union européenne. Ceci étant, elle a, comme l'Union européenne, un problème qui est celui du poids dominant des États membres et non pas de l'Union africaine en tant que telle, donc il y a très peu de transferts de souveraineté. Deuxièmement, on est quand même dans le cas de syndicats de chefs d'État et on a des États dominants, bien entendu, puisque les rapports de force ne sont pas les mêmes entre les différents États et on a beaucoup notamment de conflits ou de tensions entre les États qui rendent extrêmement difficile une action, que ce soit dans le champ diplomatique ou dans le champ militaire ou sécuritaire, puisqu'il y a des conflits entre les États. Et puis on a évidemment cette question de financement. L'Union africaine, en réalité, est largement financée par l'extérieur, par les bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne. Elle a été aussi financée par la Chine. Et donc il est évident qu'une institution régionale dont le financement dépend essentiellement de l'extérieur perd de sa crédibilité, de sa légitimité et de son indépendance.
D'autant plus que l'Union européenne baisse certaines aides. L'ONU, il y a un manque de visibilité. Il y avait des aides des États-Unis, de la Chine, et pareil, c'est un petit peu remis en cause. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité vraiment encore plus forte. Pourtant, ça a du mal à être mis en place. Finalement, qu'est-ce qui bloque? Il y a aussi beaucoup de pays qui ne cotisent pas. Qu'est-ce qui pose problème?
Ce qui pose problème, c'est que les intérêts, évidemment, des États en tant qu'État domine, et donc on n'est pas dans des jeux coopératifs, on est dans des jeux d'intérêts nationaux, et donc les contributions à une organisation régionale posent problème. On a ça dans d'autres régions, on a ça par rapport à des mouvements populistes contre l'Union européenne qui considèrent qu'elle coûte trop cher, et on a eu le Brexit en Angleterre, donc d'une certaine manière, ce n'est pas que spécifique à l'Afrique. Et puis, il faut savoir que les pays africains sont caractérisés par une extrêmement faible, hélas, fiscalité, une très forte évasion fiscale, puisqu'au fond, il n'y a que 10% de la population qui paye l'impôt. Donc, il y a un manque de ressources publiques au niveau local, au niveau national, évidemment, au niveau régional. Quant aux taxations, eh bien, il faut savoir que beaucoup d'échanges ne sont pas enregistrés, font l'objet de contrebande, et donc les taxes qui sont mises sur les échanges commerciaux ne rapportent pas beaucoup. Ce qu'il faudrait évidemment augmenter, c'est la contribution de chaque État au pourcentage, au prorata de son PIB, par exemple. Mais c'est excessivement difficile, puisqu'il y a globalement une priorité à la nation et à l'espace des États membres, et non pas à un transfert, y compris sur le plan financier, vers une organisation régionale.
Le Maroc est une puissance qui a de l'argent. Est-ce que ce critère peut avoir joué dans la décision de l'admettre, justement, dans l'Union africaine?
Effectivement, c'est tout à fait exact. Il faut savoir, c'est qu'évidemment, le Maroc est intégré à l'Afrique aujourd'hui par son partenariat, par ses investissements, par son ouverture vers l'Afrique subsaharienne, et qu'il a un poids beaucoup plus important de ce point de vue-là que l'Algérie. L'Algérie a des ressources pétrolières qui lui permettaient éventuellement de financer, mais n'a jamais joué une carte réellement favorable à l'Afrique subsaharienne. Ceci étant, le Maroc est une puissance économique, c'est une puissance qui est présente aussi dans le champ du religieux, notamment par un islam malikite qui s'oppose au salafisme, au wahhabisme. Le Maroc est présent aussi dans le domaine sécuritaire, etc. Mais le Maroc n'est quand même pas une puissance pétrolière qui dispose de ressources très élevées. Il est évident en Afrique que les pays les plus riches, entre guillemets, potentiellement, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud aussi qui a quand même des moyens financiers. Et donc le Maroc, évidemment, pourra contribuer au financement de l'Union africaine, mais elle ne pourra pas y contribuer quand même très fortement. leaders importants de l'Union africaine ont disparu. Je pense que notamment à celui qui se déclarait le roi des rois, c'est Kadhafi. Il est évident que le départ de Kadhafi a été aussi une perte financière pour l'Union africaine.
Alors vous parlez un petit peu de ces équilibres, de ces pays justement qui peuvent beaucoup contribuer. Est-ce qu'il y a aussi des jeux de puissance justement sur ces puissances qui sont des puissances contributrices qui vont essayer de peser sur les choix de l'Union africaine ?
Bien entendu, il faut le prendre un peu dossier par dossier. On voit bien que l'Union africaine pèse extrêmement peu, que ce soit dans le champ des crises politiques, des coups d'État constitutionnels, des tensions post-électorales. Tout ce qui s'est passé en Afrique centrale récemment montre que l'Union africaine n'a pas été très efficace, que ce soit la question du Yémen, que ce soit la question du Congo, que ce soit la question actuelle de la RDC, ou que ce soit dans le domaine sécuritaire. Les armées africaines régionales n'ont pas fait montre d'une grande efficacité. Si on prend, je ne sais pas, le cas, par exemple, de la Centrafrique, il est évident qu'il était pratiquement impossible d'avoir une efficacité des forces africaines dès lors que le Tchad soutient les ex-Séléka et que les pays voisins de la Centrafrique, comme mettons le Cameroun, le Congo, la RDC, soutenaient au contraire les anti-Balaka. Et donc, on voit que sur chaque dossier, il n'est pas possible d'avoir véritablement un consensus. Cela a été parfois parce qu'il n'y avait pas d'enjeux globaux, mais dans les grands dossiers, elle est totalement absente.
Et à l'inverse, quelles sont les réussites de l'Union africaine ?
Elle est quand même une organisation qui permet d'abord de la communication, qui permet d'aborder d'un point de vue africain un certain nombre de dossiers. Elle a plutôt une rhétorique aujourd'hui, notamment avec Mme Zuma, qui était plutôt anti-occidentale et qui défendait plutôt une vision panafricaine. Le problème, c'est qu'il faut traduire aussi cette rhétorique en action concrète et faire en sorte qu'il y ait des transferts de souveraineté. Et ça, on le voit beaucoup moins. Mais là, on voit bien qu'en fait, on parle de l'Afrique, mais il y a une très grande hétérogénéité des Afriques, entre l'Afrique francophone et anglophone et lusophone, entre l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale. Dans tous les domaines, il y a une très très grande hétérogénéité de l'Afrique.
Si on peut comparer, l'Union européenne, elle s'est plus appuyée sur le volet économique, même si on voit bien combien c'est vecteur de difficultés encore aujourd'hui. L'Union africaine, sur quoi est-ce qu'elle s'est reposée ou sur quoi elle pourrait se reposer pour se développer? Quels sont les grands défis qui l'attendent? Sur quel point est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle important à jouer en se consolidant?
Moi, je pense que les grands défis sont d'abord des défis sécuritaires. Bon, il est fondamental que se reconstituent des armées, des forces de sécurité, police, gendarmerie, renseignement national, mais également qu'il y ait des coopérations régionales. Donc, il faut plutôt passer par des coopérations régionales, mais l'Union africaine peut favoriser cette coopération régionale. Il y a d'autres domaines. Un grand défi de l'Afrique, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait des perspectives pour que des jeunes aient des emplois et ne soient pas tentés d'aller dans des activités criminelles, de trafic, voire radicales. Et l'Union africaine peut financer des projets qui connectent des zones par des travaux d'infrastructure et qui permettent progressivement d'avoir des véritables projets intégrés de développement économique. Elle peut jouer un rôle d'impulsion.
Elle pourrait aussi jouer un rôle géopolitique.
On voit bien que par rapport à un monde qui évolue extrêmement rapidement, par rapport à une politique pour le moins porteuse d'incertitude de M. Trump ou par rapport à un risque d'éclatement de l'Union européenne suite au Brexit et aux montées du populisme, il faut impérativement que l'Union africaine devienne un acteur qui pèse, notamment du fait de son poids démographique par rapport au système international en termes de quotas au sein des organisations internationales, etc. Et de ce point de vue-là, l'Union africaine, dans certains domaines, pourrait parler d'une seule voix. On pourrait imaginer au Conseil de sécurité qu'il y ait un représentant permanent et tournant peut-être de l'Union africaine, etc. Il y a beaucoup de domaines où il faut impérativement que l'Afrique est une position qui répond au fait qu'elle représente 15% de la population mondiale et que bientôt elle va représenter un quart de la population mondiale.
Mais cela nécessite, au-delà des moyens financiers, d'une volonté politique, non ?
Oui, il faut évidemment des moyens financiers. On vient à la question de départ, comment ça va être financé, qui va financer ? Il faut évidemment que les institutions fonctionnent. Comme disait Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Mais fondamentalement, ça suppose qu'il y ait des volontés politiques des États, des gouvernements, des présidents en place pour qu'il y ait cette fonction de l'Union africaine. Or, c'est ça qui n'existe pas actuellement. Il n'y a pas de volonté de transfert de souveraineté des États vers une organisation politique régionale. Il y a simplement une acceptation d'une rhétorique régionale. Il n'y a pas un chef d'État africain qui ne dise pas que l'intégration régionale, c'est bien. Bon, tout le monde le dit. Mais la question, c'est de passer de cette rhétorique à une mise en pratique et une volonté politique. Alors, il est évident que cette volonté politique, c'est quand même une des conditions de l'avenir de l'Afrique ou des Afriques.